VOA Afrique,
le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du mardi 30 mai 2017, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Arnold Butson. Pour commencer les titres.
Sanctions de l'Union européenne contre 8 hauts responsables congolais, dont Kalev Mutondo, directeur de l'ANR, et le porte-parole Lambert Mende.
Au Niger, le procès au fond, dans l'affaire du président de la coalition des partis de l'opposition, Amadou Djibo Ali, dit Max, s'est tenu lundi au tribunal de Niamey.
En Côte d'Ivoire, Souleymane Kamagaté a de nouveau été entendu lundi à Abidjan, en rapport avec une affaire de cache d'armes à Bouaké.
En Irak, un attentat à la voiture piégée a fait hier à Bagdad au moins 13 morts et 24 blessés.
La Corée du Nord a qualifié de succès son dernier tir de missile balistique. Washington et ses alliés continuent d'exprimer leur colère.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant le journal.
Le directeur de l'Agence nationale de renseignement de la RDC, Kalev Mutondo, et le ministre porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, sont parmi les huit hauts responsables congolais sanctionnés par l'Union européenne. Ils sont accusés de graves violations des droits de l'homme. Abdourahman Dia.
Cette liste publiée au journal officiel de l'UE s'ajoute à celle de 7 personnes soumises à des sanctions depuis décembre 2016 en réponse aux entraves au processus électoral et aux violations des droits de l'homme qui y étaient liées. Ces sanctions consistent en un gel des avoirs et une interdiction de voyager dans l'Union. Elles touchent, entre autres, le directeur de l'Agence nationale de renseignement, Kalev Mutondo, impliqué dans l'arrestation arbitraire d'opposants et de militants de la société civile, selon les termes même du communiqué. Parmi les responsables sanctionnés figure également le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication, Lambert Mende, accusé d'être responsable de la politique répressive menée envers les médias. Le ministre de l'Intérieur, Ramazani Shadari, est aussi concerné. Le chef de milice Kiyungu Mutanda, lui, est sanctionné pour avoir contribué à de graves violations des droits de l'homme et à des crimes de guerre tels que des exécutions de civils au Katanga. Ces nouvelles sanctions pourraient dégrader davantage les relations déjà tendues entre Bruxelles et Kinshasa.
En Côte d'Ivoire, Souleymane Kamagaté, chef du protocole du président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, a été de nouveau entendu hier à Abidjan par des enquêteurs sur la découverte le 15 mai d'une cache d'armes à Bouaké, épicentre des récentes mutineries de soldats. Jean-Roger Bion.
L'audition de Souleymane Kamagaté dissolte au sol par le procureur a duré plus de 6 heures, mais rien n'a filtré de l'interrogatoire. Ce proche du président de l'Assemblée nationale a été laissé libre et convoqué à nouveau pour mercredi. L'enquête contre Souleymane Kamagaté a été ouverte vendredi dernier après la découverte d'une importante cache d'armes dans un logement donné pour être sa propriété à Bouaké pendant les mutineries qui ont secoué le pays en mai. Les questions lui ont été posées sur cette affaire de cache d'armes et il a répondu qu'il n'était ni l'acquéreur ni le propriétaire de ces armes, avait expliqué la semaine dernière à la presse Moussa Touré, directeur de la communication à l'Assemblée nationale. Les médias présents à Bouaké ont rapporté avoir vu des caisses d'armes retrouvées sur ces lieux. Des mutins avaient quant à eux exhibé de nombreuses armes provenant de cette cache d'après l'AFP. Le ministre ivoirien de la Défense, Alain Richard Donvahi, avait annoncé l'ouverture d'une enquête afin de situer les responsabilités.
Au Niger, le procès au fond dans l'affaire du président de la coalition des partis de l'opposition, Amadou Djibo Ali, dit Max, s'est tenu hier au tribunal de Niamey. Il est poursuivi pour proposition de complot visant à renverser le régime du président Issoufou Mahamadou. Après avoir écouté les deux parties, le juge a mis l'affaire en délibéré au 6 juin. Les détails avec notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Amadou Djibo Ali Dimax a plaidé non coupable du fait qui lui est reproché, proposition de complot visant à renverser le régime. Malgré le rejet par le juge des exceptions qu'ils ont soulevées lors de la première audience déjà, les avocats du président de la coalition des partis politiques de l'opposition sont revenus lundi matin encore sur la nullité de la procédure pour demander la relaxe pure et simple de leur client, Maître Marc Le Bihan.
Je suis vraiment triste que pour des arguments aussi légers, aussi illégaux, sans preuve, on amène quelqu'un en flagrant délit et on le détient pendant 15 jours. Il y a vraiment un abus, un détournement de procédure. Moi, je pense que les éléments ne sont pas constitués. Le juge est obligé de relaxer Marc.
Le ministère public a requis 6 mois d'emprisonnement ferme et 200 000 francs CFA d'amende. La décision du juge est très attendue par l'opposition qui parle d'intimidation et de dévouement de la démocratie par le régime en place. Un rappel, c'est suite à une intervention appelant les militants de l'opposition à une mobilisation plus conséquente pour faire face au régime que le président du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République a été interpellé le 15 mai dernier à son domicile. Abdelrazak Idrissa, Niamey pour VOA Afrique.
Au Togo, les greffiers ont déclenché hier une grève de 72 heures pour exiger une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. À l'appel du syndicat national des greffiers du Togo et de l'association des greffiers du Togo, ces greffiers ont abandonné leur poste, paralysant, selon l'AFP, les activités dans les tribunaux.
Des avions égyptiens et libyens ont, dit-on, lancé hier d'autres raids contre les militants islamistes qui ont tué 29 chrétiens égyptiens la semaine dernière. Selon des témoins, leur cible était la localité libyenne de Dema, où, selon l'Égypte, ces militants ont des camps. Les responsables militaires égyptiens n'ont pas confirmé la nouvelle, mais un porte-parole libyen a dit que 2 groupes affiliés à Al-Qaïda ont été visés.
C'est en principe ce mardi que doit débuter au Soudan du Sud le procès de plusieurs soldats accusés d'avoir violé au moins 5 travailleurs humanitaires étrangères tués leurs collègues locales. Je reprends donc, c'est en principe ce mardi que doit débuter au Soudan du Sud le procès de plusieurs soldats qui sont accusés d'avoir violé au moins 5 travailleuses humanitaires étrangères. Et ils sont accusés aussi d'avoir tué leur collègue local l'année dernière, Michel Joseph.
15 à 20 soldats gouvernementaux passeront devant un tribunal militaire pour, entre autres, meurtre, viol et pillage, a révélé le colonel Aboubakar Mohamed, procureur militaire. L'attaque la plus grave contre les agents humanitaires au Soudan du Sud avait eu lieu en juillet 2016 dans un hôtel de Juba, alors que les soldats du président Salva Kiir venaient de chasser les forces loyales à l'ex-vice-président Riek Machar. Cette affaire avait entraîné le limogeage du commandant des casques bleus, ainsi que la démission du chef de la mission de maintien de la paix de l'ONU au Soudan du Sud. Les enquêteurs onusiens ont souvent accusé l'armée sud-soudanaise et les rebelles de recourir au meurtre, viol et à la torture, depuis le début, en 2013, de la guerre civile, de même qu'ils n'ont cessé de dénoncer l'impunité au Soudan du Sud. « Nous voulons éliminer ces crimes dans les rangs de l'armée », a assuré le procureur militaire Aboubakar Mohamed, qui a promis de se pencher également sur la responsabilité des officiers commandant les troupes.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Irak, une voiture piégée a explosé hier devant un populaire marchand de glace à Bagdad, faisant au moins 13 morts et 24 blessés. L'attentat a eu lieu 3 jours seulement après le début du mois du Ramadan, pendant lequel les musulmans envahissent les cafés et restaurants après le jeûne. Le groupe État islamique a revendiqué la responsabilité de cette attaque.
Ici à Washington, le président Donald Trump a qualifié hier d'inacceptable le meurtre de 2 hommes qui tentaient de s'interposer dans une agression islamophobe vendredi à Portland, après de nombreux appels enjoignant de condamner ces violences. Les violentes attaques de Portland vendredi sont inacceptables. Les victimes se sont opposées à la haine et à l'intolérance. Nos prières les accompagnent, a tweeté lundi Donald Trump sur le compte Twitter présidentiel POTUS, plutôt que sur son compte personnel sur lequel il s'exprime habituellement et qui est suivi par près de 31 millions d'abonnés.
La Corée du Nord a qualifié de succès son dernier tir de missile balistique, alors que les États-Unis et leurs alliés continuent d'exprimer leur colère. Ce nouveau test est intervenu 2 jours après que les dirigeants du G7 ont qualifié de menace grave les tests nucléaires et de missiles nord-coréens. Le président Donald Trump a estimé lundi sur Twitter que la Corée du Nord faisait preuve d'un grand manque de respect vis-à-vis de la Chine, alors que Pékin fait beaucoup d'efforts. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Timothée Donangmaï.
Chute dramatique des exportations du Cameroun vers le Nigeria, qui sont passées de plus de 52 milliards de francs CFA en 2015 à environ 25 milliards de francs CFA en 2016, selon le ministère camerounais des Finances. La principale cause, les attaques du groupe islamiste nigérien Boko Haram dans le nord-est du Nigeria, dans l'extrême nord du Cameroun, mais aussi au Tchad et au Niger voisin. Le Congo-Brazzaville accroît son offre d'électricité avec l'inauguration lundi par le président Denis Sassou Nguesso de la centrale hydroélectrique de Liweso à 700 km au nord de la capitale. Construit par la compagnie chinoise China Gezuba Group Company Limited, ce barrage est équipé de 3 turbines de 6 MW et demi chacune. Il vient augmenter la capacité de production d'électricité du Congo-Brazzaville, estimée jusqu'ici à 590 MW. Enfin, le gouvernement égyptien au secours des couches défavorisées, il a présenté lundi un programme d'aide sociale de 2,5 milliards de dollars, prévoyant notamment une hausse des subventions et des exemptions fiscales pour les plus démunis. L'Égypte connaît une hausse des prix sans précédent depuis que les autorités ont libéré en novembre le taux de change de la livre égyptienne dans le cadre d'un plan de réforme lié à l'obtention d'un prêt du FMI de 12 milliards de dollars.
À présent, les sports avec Eric Manirakiza. Football en Espagne, un nouvel entraîneur catalan à l'ouvrage pour rebâtir Barcelone.
Surnommé la fourmi, Ernesto Valverde a été officialisé hier soir et nommé pour au moins 2 saisons. L'ex-technicien de Bilbao a la mission de reconstruire une équipe catalane en fin de cycle pour la ramener au sommet.
En Allemagne, Marco Reus sera absent plusieurs mois.
Convalescence forcée pour l'attaquant international allemand du Borussia Dortmund en raison d'une rupture partielle des ligaments croisés du genou droit. Marco Reus s'est blessé samedi lors de la finale de la Coupe d'Allemagne remportée par sa formation contre Francfort, 2-1.
En Grèce, le Panathinaikos sanctionné pour un jet de canette.
Tout à fait, Idrissa, le club d'Athènes a été pénalisé de 5 points et puni d'une amende de 41 500 euros par la Ligue de football grec. Il sera également contraint de jouer 2 matchs à huis clos la saison prochaine. Le Panathinaikos a fait appel de toutes ses décisions pour réduire la sentence.
La finale de la Ligue des champions samedi à Cardiff. Une affiche de rêve, n'est-ce pas Eric?
On ne peut pas rêver mieux. Une finale entre le Real Madrid et la Juventus de Turin, s'est exclamé le Turinois Mario Lemina. L'entraîneur de la Juventus Turin, Massimiliano Allegri, a assuré que le favori c'est le Real. Toutefois, il a ajouté que son équipe avait progressé depuis sa finale de Ligue des Champions perdue contre Barcelone en 2015. Le technicien merengue Zinedine Zidane est déjà entré dans l'histoire de son sport en tant que joueur, Idrissa. Une victoire samedi le ferait entrer dans le panthéon des entraîneurs ayant réussi l'exploit d'être champion d'Europe 2 années de suite.
Un mot sur le Mondial 2018.
La Suède va affronter la France le 9 juin en qualification après 5 matchs dans le groupe A. La Suède est deuxième avec 10 points, à 3 points de la France qui reçoit à Stockholm dans le choc du groupe A. La Suède a ensuite prévu une rencontre amicale contre la Norvège à Oslo le 13 juin. Enfin, avec toi Idrissa, la NBA, on est à 2 jours du début de la finale 2017.
Une finale très attendue compte tenu du fait qu'elle opposera à partir de jeudi à Oakland en Californie et pour la 3e fois consécutive, Golden State Warriors de Steph Curry et Cleveland Cavaliers de LeBron James. Les Warriors qui avaient perdu la dernière fois peuvent compter cette fois-ci sur la superstar Kevin Durant qui a quitté Oklahoma City pour Golden State. Autre bonne nouvelle pour les Warriors, leur pivot, le Géorgien Zaza Pachulia, forfait pour les 2 derniers matchs de son équipe, sera à nouveau disponible dès le match numéro 1. Il est complètement opérationnel, a déclaré Mike Brown, l'entraîneur adjoint des Warriors. Depuis le début des playoffs 2017, Pachulia, qui fait partie du 5 majeur de Golden State, tourne à des moyennes de 6,1 points et 4,3 rebonds par match.
Bye. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, la CMA évalue la mise en application de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger 2 ans après sa signature. La coordination des mouvements de l'Azawad trouve que l'accord avance timidement malgré la mise en place des autorités intérimaires et des patrouilles mixtes. C'est en tout cas le sentiment exprimé hier par 3 membres de la CMA, Almoud Ag Mohamed, Ilad Ag Mohamed et Mohamed Ould Mohamoud à la Maison de la Presse et de Bamako, compte rendu de Kassim Traoré.
Cette conférence de presse se tient quelques jours après la mise en garde de la médiation internationale qui voulait couper les primes et indemnités des représentants de la CEMA au comité de suivi de l'accord. La médiation demande à la CEMA de libérer les camps et de Kidal pour que le MOC puisse être opérationnel à Kidal. Almou Ag Mohamed, porte-parole de la CEMA.
Nous, on a dit tout simplement que pour que la CEMA quitte ce camp, pour qu'on s'assure que après nous, cette position, ce poste va être sécurisé convenablement. Il y va de la sécurité des populations de cette ville. On avait trouvé pratiquement un consensus avec la MINUSMA. C'était que la CEMA occupe une partie du camp le temps que les travaux nécessaires s'effectuent et que le MOC s'y installe. Une fois que le MOC est installé dans le camp, vu que la CEMA même fait partie des éléments du MOC, nous ne voyons pas d'objection à ce que la CEMA quitte le camp.
2 ans après la signature de l'accord, la CEMA trouve qu'il n'y a pas de lenteur parce qu'il y a eu le MOC, les patrouilles mixtes et la mise en place des autorités intérimaires. Il Ag Mohamed souhaite la mise en place de l'expert indépendant conformément aux dispositions de l'accord.
Il y a une disposition de l'accord qui est très attendue. Il s'agit de l'observateur indépendant. Pour que désormais, on nous dise qui est fautif par rapport à la mise en œuvre de l'accord. Qui est en train d'entraver véritablement la mise en œuvre. C'est ça le travail de l'observateur indépendant. Et quels moyens mettre en œuvre pour que cette partie arrête de bloquer l'accord. On attend beaucoup cette disposition parce qu'après 2 ans, il faut reconnaître qu'on va tout doucement, mais les résultats ne sont pas très visants. Aujourd'hui, les Maliens s'attendent. Ils pensaient qu'après la signature de l'accord, tout allait être terminé.
Quant à Mohamed Ag Ould Mohamoud, il a axé son intervention sur les imperfections à la mise en application de l'accord.
Et pourtant, on vous dit quelque part qu'il y a un ministère qui a dépensé des milliards dans ces régions. Mais nous, on n'en a pas. On n'a pas. Elle ne peut pas répondre à ses besoins. Et l'État et les partis sont là en train de se chamailler autour d'un certain nombre de questions qui ne sont pas fondamentales. Mais il faut trouver des mécanismes. Comment répondre aux besoins des populations sur le terrain. L'accord est fait pour la population malienne. Mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on voit que tout le débat, c'est entre les parties prenantes et à Bamako. Et les gens sont là, ils attendent, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. On ne sait pas quel est l'acteur qui les lève.
Pour la CEMA, il faut une volonté politique forte du gouvernement malien pour que l'accord puisse aller le plus rapidement que possible. Almou Ag Mohamed, porte-parole de la CEMA.
On était avec la CEMA pendant tout notre séjour à Kidal. On n'a pas logé à la ministre, on n'a pas logé chez Parka. On était à Kidal, à l'intérieur de la ville, et on était sécurisé par la CEMA. On a été à Tessali, on n'était pas sous la sécurisation des Barkhane ni de la MINUSMA. On était avec la CEMA. Les gens sont disposés, ils sont prêts à recevoir toute disposition prévue par la CEMA. Ils sont prêts à aller au camp, ils sont prêts à faire fonctionner les autorités intérieures, ils sont prêts à un retour de l'armée nationale reconstituée dans le cadre de la CEMA.
Cette rencontre avec la presse marque aussi le début des échanges entre les responsables de la CEMA et la presse malienne afin de donner de bonnes informations aux médias. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
En Guinée, la grève dans les banques ne facilite pas un bon début de Ramadan. Les employés des banques réclament de meilleurs traitements et pour se faire entendre, ils ont refusé de se rendre au travail, nous dit de Conakry notre correspondant Zakaria Camara.
Les employés des banques, des grévistes réunis lundi matin en centre-ville pour exprimer leur soutien à leur syndicat. Alpha Baldé, deuxième secrétaire général adjoint de la Fédération syndicale autonome des banques et assurances.
L'objectif, c'est d'exprimer le mécontentement de l'ensemble des travailleurs du secteur financier à l'égard des patrons qui méprisent les travailleurs, qui méprisent le peuple de Guinée, qui ne sont pas sensibles au ce mois de Ramadan.
Au sixième jour de grève, troisième jour de Ramadan, de nombreux Guinéens, à l'image de cette mère de famille, arrivent difficilement à souffrir plusieurs plats pour la rupture du jeûne.
Pendant ce mois de Ramadan, c'est difficile vraiment. Et le marché aussi, tout est cher maintenant, les prix ont été augmentés. Le kilo de viande qui se vendait à 35 000 se vend à 40 000 actuellement. Et même le gombo qui est à 500, on le vend aujourd'hui à 2 000 francs. C'est vraiment difficile pour nous. On n'arrive pas à joindre les deux bouts.
Autre conséquence, les commerces et autres activités commerciales s'inquiètent du volume des billets de banque qu'ils gardent dans les coffres forts. Docteur Abdourahman Baldé, pharmacien.
Une semaine de mouvement sans versement à la banque, ça devient un souci. Non seulement pour nous qui recevons de l'argent, et ça devient un autre souci pour ceux qui sont en quête d'argent. Parce que si tu as ton argent déposé à la banque, tu ne parviens pas à le récupérer, ça devient un autre problème.
Les grévistes demandent au patron des banques la satisfaction de 11 points de revendication, dont l'augmentation des salaires. Conakry, Zakaria Camara pour VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement réaffirme la gratuité des soins pour le paludisme simple, une mesure en vigueur depuis 2012 mais pas toujours appliquée dans plusieurs centres de santé. D'Abidjan, les explications de notre correspondant Georges Ibrahim Tunkara.
En Côte d'Ivoire, le paludisme reste l'une des principales causes de mortalité. En 2014, ce sont 4077 personnes qui en sont mortes et 3075 en 2016. La tendance est à la baisse selon le PNLP, le Programme National de Lutte contre le Paludisme. Pour le directeur coordonnateur du PNLP, il faut maintenir le cap, d'où la mesure portant gratuité des soins contre cette maladie. Docteur Antoine Tanoméa.
Pour permettre à toute la population, toutes les personnes vulnérables, tous ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir accès facilement au traitement, c'est pour ça que l'État de Côte d'Ivoire a rendu gratuit la prise en charge contre le paludisme. Parce que le paludisme est le premier motif de consultation en Côte d'Ivoire.
Si officiellement le traitement du paludisme simple est gratuit, la réalité est cependant tout autre dans de nombreux centres de santé. Plusieurs malades, comme ici dans la commune d'Abobo, affirment avoir payé les soins liés à cette maladie. Kadiatou Traoré est nourrice.
C'est mon petit bébé qui est malade là, dont on l'a amené ce matin. En fait, on n'a pas payé le ticket, mais on a donné l'ordonnance, on a acheté les seringues là, on a fait une injection. C'est mon mari même que je cherche, il a sorti l'ordonnance, donc c'est venu voici, il est au dehors ici.
Il a fait combien de mois?
Il a un mois.
Dame Kwadjo Yvette vient de consulter un médecin.
Bon, il m'a dit que c'est le palu. Il m'a passé les ordonnances à acheter.
Donc vous n'avez pas donné de médicaments?
Non. Pas de médicaments.
Donc vous allez tout payer, hein?
Bon, je vais voir la maison, je vais aller voir monsieur, parce que je ne suis pas venu assez d'argent, non? Jusqu'à deux ordonnances. Aucun médicament.
Une autre dame rencontrée cette fois à Yopougon, autre quartier d'Abidjan, dit ignorer l'existence de la mesure sur la gratuité des soins du paludisme simple.
Je suis allée plusieurs fois à l'hôpital et j'ai toujours payé les médicaments. Je ne sais pas pourquoi on dit que c'est gratuit. C'est écrit nulle part. Je ne sais pas si c'est écrit là-bas même. Même quand on devait prendre les médicaments à l'hôpital, c'était toujours payant.
Les médecins que nous avons approchés n'ont pas voulu réagir à ce débat, préférant nous renvoyer à leur hiérarchie. Docteur Antoine Tanoméa, directeur coordonnateur du Programme national de lutte contre le paludisme.
Il y a d'autres personnes qui l'appliquent et on reçoit des sons divers qui disent que soit j'ai payé ou je n'ai pas payé, qu'il y a une confusion. Le médicament du paludisme est gratuit. Ce que nous demandons aujourd'hui aussi à nos collègues, les prescripteurs, les médecins, les infirmiers, c'est qu'ils fassent maintenant des ordonnances différentes. Qu'ils puissent faire une ordonnance typiquement pour le traitement du paludisme simple et une autre ordonnance aussi pour autres affections qui sont liées au paludisme, pour ne pas qu'il y ait cette confusion.
On le voit donc, la gratuité du traitement du paludisme simple proclamée dans le discours officiel est loin d'être une réalité dans de nombreux centres de santé. Georges Brentoncara, Abidjan, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Au Kenya, les 8 candidats à l'élection présidentielle du 8 août sont connus depuis hier. Et la commission électorale kényane les appelle tous à éviter des discours de haine pendant la campagne. Lionel Gahima.
La commission électorale indépendante du Kenya a retenu 8 candidats pour la présidentielle du 8 août. En plus du président Uhuru Kenyatta et son principal opposant Raila Odinga, les candidatures de 3 leaders de petits partis et de 3 indépendants ont également été retenues. Pour être accepté, un candidat doit être kényan de naissance, détenir un diplôme d'une université reconnue. Monsieur Uhuru Kenyatta se représente cette année avec son vice-président William Ruto, qui s'est adressé à des partisans à Nairobi peu avant le dépôt des dossiers. Comme vous le savez, le président Uhuru Kenyatta va déposer son dossier afin de se présenter à la présidentielle du 8 août et nous vous remercions d'être venu l'accompagner à la commission. De son côté, l'opposition a formé une coalition, la NASA, National Super Alliance. Celle-ci regroupe 5 poids lourds de la politique, dont Raila Odinga, ancien premier ministre, déjà 3 fois candidat malheureux à la présidence. Il se présente avec Kalonzo Musyoka, candidat au poste de vice-président. Raila Odinga appelle la commission à simplement respecter la volonté du peuple. La commission doit être à même non seulement d'organiser des élections libres et transparentes, mais aussi de s'assurer que ces élections soient vraiment libres et transparentes. Les citoyens de la première économie d'Afrique de l'Est sont appelés aux urnes 10 ans après les pires violences électorales kényanes qui avaient fait plus de 1100 morts lors de l'élection de Mwai Kibaki. Alors que la fièvre électorale monte, le président de la commission électorale, Wafula Chebukati, a lancé une mise en garde à tous les candidats. Vous avez signé un accord de bonne conduite en tant que parti politique et en tant que candidat. Et nous, la commission, n'hésiterons pas à mener des actions si vous violez ce code de conduite. Nous voulons que ce pays soit paisible avant, pendant et après cette élection. Les élections de 2013 ont été pacifiques, mais Uhuru Kenyatta et William Ruto ont été accusés d'avoir orchestré les violences de 2007. Faute de preuves, la Cour pénale internationale a abandonné les poursuites contre les deux hommes.
En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma a échappé à une autre motion de défiance ce week-end lors d'une réunion du comité exécutif national de l'ANC à Pretoria. Le président Zuma continue de faire les frais de son remaniement ministériel controversé de la fin mars, qui a vu l'entrée au gouvernement d'une dizaine de ses proches et le départ du ministre des Finances, Pravin Gordhan. Pour une réaction, Timothée Donangmaï a joint David Zunmenu Dossou de l'Institut d'études de la sécurité à Pretoria.
Je pense que cette motion de censure, la deuxième déjà en 6 mois, intervient dans un contexte un peu difficile, aussi bien pour l'ANC que pour l'Afrique du Sud, qui a vu un peu son statut relégué au statut d'État en défaillance. Et également au moment où même les partenaires traditionnels de l'ANC expriment des mécontentements par rapport à la situation politique du pays, à la façon dont l'ANC répond à certains problèmes, à certaines critiques dirigées contre le président. Mais c'était sans espérer, en tout cas, que cette motion de censure allait prospérer au sein de l'ANC, car cela pourrait avoir de graves conséquences, surtout qu'on est à 6 mois de la conférence élective de l'ANC, où on connaîtra le prochain dirigeant du parti, et indirectement le prochain président de l'Afrique du Sud.
Quelle marge de manœuvre cela laisse-t-il au président Zuma?
Le président Zuma dispose de 6 mois pour essayer de corriger son héritage politique. Et il faut le dire, c'est un héritage politique qui est émaillé de soupçons de corruption, de l'influence grandissante de la famille indienne appelée Guptas dans la gestion des affaires. Et déjà des informations qui circulent dans la presse font état de collusion entre le président et cette famille qui s'est imposée un peu comme le faiseur de roi, très déterminant dans le choix des ministres, dans le choix des décisions et également très influent dans la façon dont l'État fonctionne en Afrique du Sud. Si ces allégations sont fondées, cela va dénoter de la fragilité de l'État sud-africain, sinon de l'environnement politique sud-africain, surtout au moment où les Sud-Africains ne savent pas exactement qui a la capacité et l'intégrité morale pour pouvoir rehausser la barre, pour remettre l'Afrique du Sud sur les rails de développement socio-économique et mettre en place des mesures qui sont susceptibles d'apporter en tout cas des soulagements aux besoins et aux souffrances des millions de Sud-Africains qui espèrent toujours que la période post-apartheid peut être définie comme la période de la prospérité pour un pays qui ne manque pas de ressources.
David Zunmenu Dosu de l'Institut d'études de la sécurité à Pretoria, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.